Europe 1.
17h, 18h.
Clap. Laurie Choleva.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et ça tombe bien puisque c'est l'heure du journal des sorties. Cette semaine, on parlera exceptionnellement du nouveau film Netflix de Romain Gavras.
Oh là là.
Avant de retrouver les salles obscures pour un déchirant destin maternel, on parlera également d'un projet mystérieux au sein d'une communauté des années 50.
Oh là là.
Et on terminera avec un joli documentaire sur David Bowie. Franck Vallière a très envie de vous en parler. Mais comme toujours, on fait un petit point sur le box-office. On va aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Cette semaine, le cinéma français a continué de poster les premières places du box-office. On est bien content. Alors, aucun changement en première place du box-office. Vous en avez une idée? Compromat,
ouais,
exactement.
Voilà,
thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche qui a totalisé 340 000 entrées en deux semaines. C'est-à-dire que cette semaine,
cool.
Il a fait déjà plus de 130 000 entrées. Donc voilà, ça
ouais,
c'est vraiment une bonne nouvelle.
Ça.
À la deuxième place, une nouveauté. On est très content puisqu'on recevait la semaine dernière Vincent McKaigne. C'est Chronique d'une liaison passagère, le
Quel
nouveau
bonheur.
Film d'Emmanuel Mouret. 120 000 personnes en une semaine.
Et c'est presque son plus grand hit, à Mouret.
Ouais, c'est vachement bien.
Je crois que c'est son deuxième meilleur démarrage.
Et c'est très mérité. Et en troisième position, le film perd 14% de ses entrées, mais il y a quand même un excellent bouche à oreille. C'est Revoir Paris avec 114 000 spectateurs, drame avec Virginie Efira. Alors on commence notre tour d'horizon des sorties salles avec une sortie plateforme. C'est Athéna, le film événement de Romain Gavras, coécrit avec Lajli, qui avait réalisé Les Misérables. Le film a été présenté à la Mostra de Venise il y a quelques semaines. C'est un drame familial avec au centre la crise des banlieues. Après la mort suspecte de leur petit frère, une fratrie se retrouve au cœur d'un chaos face aux forces de l'ordre dans leur cité Athéna. C'est un film choc, violent, spectaculaire, avec un excellent casting d'Ali Ben Salah, qu'on avait vu dans le dernier James Bond, et Anthony Bajon.
À chaque fois qu'il tape, on tape. À chaque fois qu'il tue, on tue. Sur les réseaux, sur BFM, ils disent que si ça se trouve, c'est pas les condés qui font la bavure.
Non mais c'est quoi ton problème? T'aimes encore obéir aux ordres?
Comment tu veux pas qu'il y ait la guerre? Surtout pas ici, là.
Bon voilà, déjà la bande-annonce, elle est puissante.
Ouais, mais la bande-annonce
qui
rend pas vraiment hommage au film parce que le film est bien plus grand que ça. En fait, il y a marqué sur l'affiche du film une tragédie de Romain Gavras et c'est vraiment ça. Athéna, c'est une tragédie grecque. C'est un film de guerre. Il y a des images que vous allez voir dans ce film que vous n'avez pas vues ailleurs. Il y a sûrement les plus belles images de cinéma que j'ai vues cette année dans Athéna de Romain Gavras. C'est un film d'invasion de château fort. Il y a des scènes d'invasion de douves. On se croirait dans le gouffre de Helm. On a l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux alors qu'il y a des CRS qui font des formations tortues avec des feux d'artifice autour. C'est un film qui est construit entièrement avec des plans séquences. Le début du film, c'est 20 minutes qui ne s'arrêtent pas. On court en
45.
Voiture. Non mais c'est hallucinant.
45 premières minutes sont absolument délirantes.
C'est hallucinant de technique, c'est hallucinant de maîtrise, c'est hallucinant de jeu. Et surtout, dès la bande-annonce, les gens se sont dit « Oh bah super, ça va être un film polémique, qui va parler des cités, quoi que ce soit. » Le film est tellement plus malin que ça. Le film va utiliser la multiplicité des points de vue. On est du côté de la banlieue, mais on est aussi du côté des CRS. On essaie de comprendre les enjeux de chacun.
Comme c'était déjà le cas avec Les Misérables de Lajli. Hein.
Exactement.
Oui, alors attention, parce que esthétiquement, ça n'a plus rien à voir.
En fait, c'est un peu comme si le film, c'était les 5 dernières minutes des Misérables, mais pendant 1h30 non-stop.
Voilà.
C'est démentiel.
Le film convoque aussi bien New York 1997, Casso, que Fight Club, que 300, mais régurgité. Et surtout, là où ça va être intéressant, parce qu'il va arriver à avoir forcément des tentatives de récupération politique, et là où le film est très intéressant, c'est qu'il échappe à tout manichéisme. Certes, il prend position, mais il n'est pas partisan.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est exceptionnellement bien joué de la part de Gavras, dont, rappelons-le, un des précédents films, Notre Jour Viendra, était déjà d'une virtuosité hallucinante.
Son meilleur, pour moi, c'est
Le Monde est à toi.
Le Monde est à toi, avec Karim Leclou, c'est juste bien, enfin, c'est fou. Bref, voyez Athéna, on parle rarement film de plateforme, mais quand il y en a des aussi dingos que celui-là, il faut en parler, il faut le voir, et surtout, si vous voulez en parler, voyez-le.
Le plus dramatique, c'est qu'on pourra pas le voir en salle, et ça...
Et on revient maintenant au cinéma avec un film que vous pourrez donc voir sur grand écran, Don't Worry Darling, de la réalisatrice Olivia Wilde, film qui était présenté d'ailleurs au dernier festival de Venise, un film qui fait beaucoup parler de lui, qui suit la vie d'Alice, une femme au foyer d'une communauté californienne des années 50.
Tu sais seulement ce que c'est ce projet Victory, t'as cherché à savoir.
Et toi?
Qu'est-ce qui se trame ici?
Arrête Alice.
Et si on était en danger? Et si on...
Arrête maintenant! Non. Ça ne fait rien. Je suis curieux de savoir où elle veut en venir.
Ils l'ont mangé.
augmente sur toute la ligne.
Nous ne reculerons pas. Nous sommes à l'avant-garde.
Un film avec Harry Styles.
Tout à fait, mais surtout avec Florence Pugh dans le premier rôle qui est brillantissime. Vous l'aviez déjà vu normalement dans Midsommar ou peut-être dans Black Widow. Mais en tout cas, voilà, Florence Pugh ne cesse de me fasciner. Et c'est pour ça que je suis allé voir le film, parce que j'adore Florence Pugh. Par contre, le vrai problème, c'est qu'au bout de 3 minutes de film, je me dis, oh, c'est un film à twist. C'est bizarre, je suis sûr que le twist, c'est ça. Et au bout d'une heure et demie, c'était ça. Parce que c'est un film qui se croit bien plus malin qu'il ne l'est et qui essaye de compenser avec beaucoup d'esthétique pour dire, regarde, je bouge ma caméra et j'essaye de faire un peu des gimmicks en toc pour compenser le fait que je suis un peu bête. Alors oui, il y a des belles images, la photo est très jolie. Par contre, en termes de scénario, de machination Black Mirroresque, on a quand même vu mieux ailleurs dans n'importe quel épisode de la quatrième dimension.
Mais la grande question, c'est est-ce que Harry Styles a craché lors de...
Excusez-nous, moi je ne veux parler que de cinéma, comme disait Godard.
C'est vrai que je n'avais pas de soucis plus urgents à traiter que ça.
Parce qu'il y avait cette polémique quand même.
Oh, mais alors, mais polémique,
mais
Victor.
Ouais. C'est quoi l'histoire? C'est une photo qui a circulé, c'est
ouais,
ça?
Ouais, non, mais c'est surtout qu'il y a eu des polémiques sur le tournage entre la réalisatrice et la comédienne. Mais le problème, c'est que quand on parle de ces polémiques, on parle que très peu de cinéma, et je trouve que ça a quand même un peu tué la carrière de ce film-là, parce que tout le monde n'a parlé que des polémiques et des petites batailles d'ego. Au final, je préfère parler du film.
On écoute ce que vous en avez pensé.
Très bonne surprise. Une fin assez incroyable quand on comprend le pourquoi du comment. J'y aurais jamais pensé.
Je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai été pris par tout le film et je suis déçu par la fin.
Florence Pugh, elle était super, comme toujours. Et la fin, le plot twist, c'était super.
C'est bien mené, il y a du rythme. Mention spéciale aussi à la bande-son du film.
Quand il y a Florence Pugh dans un film, je vais le voir. J'ai trouvé ça chouette, ça tient bien la route. Et l'esthétique m'a beaucoup plu. C'est bien fait, quoi.
Et oui, elle fait l'unanimité, Florence Pugh. On continue avec un film bouleversant, Les enfants des autres, de Rebecca Zlotowski. L'histoire est simple, mais elle va vous toucher en plein cœur. Virginie Efira et Rachel, une prof de français, une quadra, qui n'est pas encore mère et qui va rencontrer Ali, joué par Roche Dizem. Lui, il est le père d'une petite fille de 4 ans. Elle va tomber amoureuse du père, mais elle va aussi tomber sous le charme de la petite fille. Le problème, c'est que lorsqu'on s'attache à l'enfant d'un autre, eh bien, on prend le risque de souffrir.
Mais si tu crois un jour que...
Elle a 5 ans.
Va pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire.
Dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère. Pour toujours. Que je resterai une figurante.
T'exagères.
Il y a beaucoup de choses dans ce film, oui. Puisqu'il y a la figure de la belle-mère, il y a le désir de maternité à un âge 40 ans où ça devient moins facile. Et il y a quelque chose aussi sur la transmission, Franck Gaillard.
Ce n'est que ça, c'est-à-dire que la façon dont tu l'as annoncé, Laurie, et ce que développe la bande-annonce, c'est presque pour tromper le spectateur. C'est donner une fausse piste, parce que le nœud du film, c'est la transmission. Mais au sens large, c'est-à-dire que n'importe qui a des amis qui ont des enfants, sait que avec son meilleur ami, avec son frère, sa sœur, on ne peut pas dire hey, « tu crois pas que ton gamin il ferait mieux de faire ça. » C'est un truc qu'on ne peut pas rentrer dans cette sphère-là. Le film part d'abord, a priori, de la difficulté, même quand on est amoureux, dans le cas du personnage que joue Virginie Efira, de quelqu'un très fort, de la difficulté de rentrer dans une sphère familiale déjà établie, qui a déjà ses codes, et de, avec toute la bienveillance du monde, c'est très difficile de pénétrer cette sphère-là. La deuxième chose, c'est comment transmettre au sens large. Comment improviser le désir qu'on a en soi de partager les bonnes choses qu'on a pu accumuler, comprendre dans un monde qui va si vite et qui est si dur, et avec deux personnages qui sont extrêmement aimants, et ben malgré tout ils vont arriver à se faire du mal. C'est fascinant, ce film, c'est fascinant.
Ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé aussi Les enfants des autres. Je trouve ça très joli, c'est du cinéma de l'intime, c'est du cinéma du détail, justement où on va avoir une petite main qui se touche, un petit bisou. En fait, c'est fou parce que c'est un cinéma qui sent la fémise, qui sent ces écoles de cinéma là, qui a tout pour m'emmerder. Vraiment, quand je le regarde de loin, je me dis, oh, je vais être à 100 km du film. Et en fait, non, parce que c'est fait avec une telle sincérité, c'est fait avec une telle douceur, une telle beauté. Et Virginie Efira prouve encore une fois que c'est sûrement un de nos plus grands talents français. Et qu'est-ce qu'on l'aime. Non, vraiment, je suis très touché par le film, très emporté. Et la figure de la belle-mère a tellement été maltraitée dans la culture en général que la voir par un autre prisme, ça fait plutôt du bien.
Le film est fantastique. Il rend hommage. Il y a quand même 3 hommages au cinéma de Claude Sautet dans les 5 dernières minutes. La fin est bouleversante. C'est vraiment...
On a tous beaucoup aimé, on va écouter vos réactions.
Très beau film, c'est émouvant, c'est très bien joué. C'est un film qui peut toucher beaucoup de gens.
J'aime beaucoup le travail de la cinéaste et je trouvais que c'était vraiment son film le plus abouti.
J'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup les acteurs, j'aime bien ce que fait Rebecca Zlotowski, mais là je suis pas rentrée dans le film.
J'ai adoré Virginie Efira et Roche Dizem jouent très très bien, la petite fille aussi. C'est vrai que j'ai eu 2 ou 3 fois les larmes qui sont montées aux yeux en même temps parce qu'on s'identifie à Virginie Efira, enfin très très joli film.
Une autre sortie française cette semaine, le nouveau film de Christian Carion, Une belle course, l'histoire d'une rencontre, celle d'un chauffeur de taxi un peu bougon et d'une nonagénaire pleine de sagesse, Céline Renaud et Danny Boone, qui sont une nouvelle fois réunis à l'écran pour cette comédie dramatique simple mais émouvante, un trajet en taxi qui va changer la vie. Et puis Franck, pour terminer, vous vouliez nous parler d'un documentaire sur David Bowie.
Idéal pour le samedi soir parce que c'est un univers en soi, vous l'allez sortir ce soir à minuit, vous êtes là, waouh, c'est super en fait. David Bowie était génial parce qu'il œuvrait un peu à la manière d'un grand reporter, il allait chercher sonder des secteurs hyper pointus pour les ramener vers la norme, tout en ayant le talent de pouvoir entretenir son statut de star. Et en fait, ça casse les codes du docu. C'est pas chronologique, c'est pas géographique, il n'y a pas de voix off. 7 ans de boulot pour le réalisateur. Rien qu'un an et demi de boulot sur le sound design, parce qu'on passe d'une séquence à une autre en mélangeant les sons. C'est complètement hypnotique. C'est un docu complètement dingue.
Donc le titre de ce documentaire, c'est Moon Age Daydream. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de ce clap. Ahmed Silla était mon invité aujourd'hui. Il nous a parlé de la comédie jumeau mais pas trop, qu'il faudra donc découvrir mercredi prochain, le 28 septembre, au cinéma. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. Et nous, évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera
toujours
là, fidèle au poste.
On sera là.
Et continuez d'aller au cinéma. À bientôt sur Europe 1.